Nous sommes le mercredi 8 novembre, coucou, c'est moi, Bruno. Les oiseaux gazouillent et la planète gaming frétille comme à son habitude avec une multitude d'infos que je viens porter à vos oreilles avec cette nouvelle édition de la revue de presse, j'y vais! Welcome les copines, welcome les copains, comment allez-vous ce matin? Moi ça va bien et j'arrête tout de suite les rimes avant de devenir ultra lourdingue. Encore un joli programme pour aujourd'hui, pour cette édition du jour, une édition qui, je l'espère, vous donnera panache et vitalité. Et oui, on en a bien besoin avec ce foutu temps. Mon dieu que ça caille, j'ai les petons glaçons. Mon dieu que ça caille, ce nom d'une pipe en bois. Allez, on va se réchauffer, on attaque! Le PlayStation Blog, officiel, hein, a donc donné un peu plus d'informations sur le PlayStation Experience 2017 qui aura lieu le 9 et 10 décembre prochain en Californie. Shawn Leyden, Big Boss des PlayStation Worldwide Studios, nous donnera donc un peu de biscuits sur des jeux déjà annoncés. Quelques surprises et des invités sont également au menu sans que des blazes aient été balancés jusque-là. On nous annonce aussi que ce sera plus modeste, hein, que la conférence de la Paris Games Week. Faut dire que ces derniers temps, Sony enchaîne les grosses confs, donc là, bon, c'est un petit peu normal, hein, on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus réduit. Mais enfin, moi j'ai quand même super hâte d'y être, puisqu'on aura plus d'infos sur Ghost of Tsushima, le prochain jeu du talentueux studio Sucker Punch, à qui l'on doit déjà les Infamous, et aussi du futur Dreams de Media Molecule, ce jeu un peu poétique, conceptuel, on ne sait pas ce que ça va donner, oh là là, quel suspense. Bref, il y aura aussi des compétitions sur Gran Turismo Sport, des concours de claquettes et un lancer de tongs officiel. Bon, pour les deux dernières infos, je ne suis pas sûr, mais en tout cas pour tout le reste, on aura effectivement plus d'infos sur ces jeux attendus. Et donc, comme je le disais, c'est le 9 et 10 décembre en Californie. Les jeux vidéo, ce sont des femmes et des hommes, certes, mais ce sont aussi des chiffres. C'est terrible. Mais c'est comme ça, qui puis-je moi, pauvre podcasteur aux tempes grisonnantes? Alors pourquoi cette petite intro pathétique? Pour vous dire que PlayerUnknown's Battlegrounds, dit PUBG pour ceux qui savent, on en parle très souvent dans cette émission, eh ben vient officiellement de passer la barre hallucinante des 20 millions de ventes, et ce, en un peu plus de 6 mois de présence sur Steam. C'est assez dingue, c'est assez dingo, hein, comme disent les jeunes dans le vent. Rappelons que la sortie Xbox One, hein, toujours calé au 12 décembre, va sûrement être très observé, car je ne pense pas être le seul à être curieux de voir quel impact aura ce jeu phénomène, hein, ce jeu de Battle Royale, sur la console de Microsoft. Donc, affaire à suivre, mais où va donc s'arrêter PUBG? Vers l'infini et au-delà, et encore au-delà et re-vers l'infini derrière, on ne sait pas, nous verrons bien. Mais ça reste quand même super impressionnant. Wonder Boy The Dragon's Trap, le fameux remake du jeu éponyme, absolument fantastique, sortira en boîte début 2018 sur Nintendo Switch, chez nous, et ça c'est Nintendo Différence, et plus particulièrement Klaus, qui nous le dit. C'est Head Up Games qui continue son partenariat avec l'éditeur américain Nicalis et annonce la sortie pour le premier trimestre de 2018 de la version physique de Wonder Boy The Dragon's Trap sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en Europe et en Asie. Donc vous voyez, je vous ai dit sur Switch, mais en fait, c'est aussi sur PlayStation 4. Mon Dieu, c'est fabuleux. Alors cette version, hein, nous dit Klaus, sera proposée au prix de 39,99€. Afin de sortir la version boîte du jeu chez nous, Head Up et Nicalis se sont bien sûr associés à la société Dotemu qui a sorti le titre de Lizard Cube cette année uniquement en version dématérialisée sur Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, Linux et même le micro-ondes de ta grand-mère, je l'imagine. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour ce remake qui a une tête absolument fantastique et que j'espère faire aussi un jour, mais il y a trop de bons jeux qui sortent, qu'est-ce que vous voulez, c'est la folie, on s'en sort plus. J'ai une question, alors soyez attentifs, hein, c'est très important. Et si The Last of Us 2 se déroulait à Seattle? Et ben on n'est pas à l'abri de ça les copains. C'est Uncharted France, et plus particulièrement Antoine, qui relève cette information. L'excellent site Uncharted France, si vous êtes fan de la saga mettant en scène Nathan Drake, ce qui est mon cas, et tout aussi foufou de The Last of Us, ce qui est aussi mon cas, et ben je vous incite vraiment à aller consulter ce site régulièrement, les mecs font un boulot d'enfer. Donc Uncharted France nous informe que des petits malins du forum Reddit ont trouvé les indices suivants qui tendraient à prouver que cette suite tant attendue, et qui a suscité pas mal de réactions avec son dernier trailer, mais là n'est pas le débat, donc qui tendrait à prouver que le jeu se passerait à Seattle, a été relevé donc par ces petits coquinous du forum Reddit et rapporté par Antoine que les téléphones publics du premier trailer correspondent à ce que l'on peut trouver dans la ville de Seattle, que les bâtiments également du premier trailer correspondent à ce qu'on peut voir à Seattle, que la végétation visible dans le premier trailer est semblable à celle de la ville susnommée, que le bâtiment avec l'inscription public parking visible dans un artwork du jeu est identique à un parking public de... Eh oui, de Seattle, hein, pas de Montargis, fatalement. Les panneaux routiers verts et jaunes sont semblables à celles de la nationale I5 située vers Aldgate Street. La forêt de la séquence de la Paris Games Week serait située au Dr. José Rizal Park. Vous avez vu l'accent, c'est trop la classe. Et enfin, la voiture ressemble fortement au véhicule de la police de Seattle. Bon, alors ça fait beaucoup d'indices. Est-ce que là, on ne va pas un peu trop loin dans les suppositions? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça rigolo à rapporter. Bandai Namco a annoncé vouloir s'investir d'autant plus sur la Nintendo Switch. Ça y est, c'est le coup de foudre. En fait, l'éditeur n'avait pas à ce point anticipé le succès de la console, hein, sur lequel il avait sorti au début, lors des premiers mois de la machine, Namco Museum et Dragon Ball Xenoverse 2. Mais lors du dernier briefing financier, Mitsuaki Taguchi a déclaré « Nous avons publié 3 jeux sur la Switch jusqu'ici. » Bon, le troisième revient pas en tête, mais vous me direz ça dans les commentaires. Hein. « Ils s'en sortent tous bien. C'est dommage, mais nous ne pensions pas que la Switch soit si vite acceptée. » Confidence pour confidence, c'était mon cas aussi où je me suis totalement planté. Mais enfin, rappelez-vous, des débuts de la com avec One to Switch, le bébé qu'il faut bercer avec la tête d'alien, traire, lavage, tout ça. On partait de loin quand même. Bref, et je me réjouis totalement du succès de cette Nintendo Switch. Mais là encore, je digresse, que voulez-vous, c'est une de mes spécialités. Il a été annoncé que Bandai Namco augmenterait très rapidement la production de titres Switch, et ce dès la prochaine année fiscale, c'est-à-dire au printemps 2018. Je pense que Bandai Namco ne doit pas être le seul à avoir été surpris du succès de la Switch. C'est une bonne nouvelle, vu le catalogue quand même assez riche et attrayant de Bandai Namco, les possesseurs de Switch ne peuvent que se réjouir d'une telle annonce. Alors attention, là on va parler de très certainement mon jeu de l'année avec Breath of the Wild et sûrement Super Mario Odyssey. Quelle année 2017 quand même, quelle année 2017. Bref, un jeu qui m'a marqué au fer rouge, qui est directement dans mon top 5 des jeux préférés de la vie, des débuts de la galaxie, à savoir Nier Automata. J'ai tenu quand même, depuis que le podcast existe, c'est-à-dire depuis le 25 septembre, je vous ai pas saoulé, il me semble, une seule fois avec Nier Automata, et pourtant je pourrais en parler des heures. Bref, tout ça pour vous dire que le producteur de la série des Nier, hein, Yosuke Saito, a été interrogé sur le futur de la saga par les japonais de Denkenki PlayStation. Et c'est le site Gametsu qui rapporte ça. Il nous a traduit les propos du bonhomme en anglais, des propos que je vais vous traduire moi-même tout seul dans notre belle langue, rien que pour vous. Alors je n'ai pas pris une traduction hein, sur un site français, j'ai fait ma petite traduca moi personnelle parce que j'estime qu'il y a quand même voilà, un minimum d'investissement à avoir. Vu que je passe toute la journée à préparer ce podcast au quotidien, je me dis « Bruno, t'es plus à un quart d'heure près, hein. Donne le meilleur de toi-même, va toujours plus loin, toujours plus haut et toujours le point levé. » Ça c'est très important. Yosuke Saito a dit au sujet d'un nouvel épisode, donc de Nier, « Nous sommes en train de réfléchir à son contexte, comme vous avez pu le deviner avec l'annonce d'un recrutement d'un scénario planeur. » Bon, déjà ça, moi, ça me rend dingue, vu que on s'en doutait, mais ça officialise d'autant plus, les gars, qu'un nouveau Nier est en préparation. Et là, je suis joie. Je croise les doigts pour que ce soit toujours Platinum qui s'en occupe, mais ça m'étonnerait que ce soit le contraire, vu le mariage absolument fantastique, l'un des plus beaux mariages de l'histoire du jeu vidéo qu'il y a eu entre le papa de la Siri Nier, Yoko Taro, et des techos de malades de Platinum Games. Et justement, Yoko Taro, le papa des Drakengard et du diptyque Nier, Yuzuke Saito en parle et dit que Yoko Taro est partant. Donc ça, c'est, c'est déjà un bon début. Yuzuke Saito ajoute que Yoko a dit qu'il ferait n'importe quoi du moment qu'on le paye pour ça, mais il n'y a personne qui soit aussi peu intéressé par l'argent que lui. Il veut tout simplement faire ce qu'il a envie de faire. Je vais donc faire au mieux pour lui expliquer ce qu'il ne veut pas faire afin de l'emmener vers ce que je veux faire. Entre parenthèses, rire. Fallait-il attendre autre chose d'une déclaration de ce déglingo de Yoko Taro? Mais en même temps, quel génie. Jouer à Nier Automata, jouer à Nier Automata, jouer à Nier Automata. Voilà, si je l'ai dit 3 fois, normalement, ça devrait arriver. Voilà, bah écoutez, ouais, je suis comme un petit foufou. Hein. Je frétille comme une petite truite. Je ne suis qu'amour, quelque part. Dernière info qui vient de tomber, hein, alors que je suis pas loin de terminer le montage de cette émission, nous sommes très très tard dans la nuit. Telltale Games réduit ses effectifs de 25%, c'est ce que titre jeuxvideo.com. C'est Malo Delic, hein, journaliste du site, qui nous dit « Telltale Games annonçait aujourd'hui que ses effectifs allaient subir une réduction globale de 25%, occasionnant donc de nombreux licenciements au sein des studios. Le développeur connu pour ses jeux d'aventure narratifs comme Batman, Walking Dead ou Tales From the Borderlands n'a pas arrêté de grandir au cours des dernières années en multipliant les titres sous licence avec plus ou moins de succès, mais toujours basé sur le même schéma épisodique. En septembre, le développeur avait par ailleurs nommé Pete Hiley de Zynga en tant que nouveau PDG, annonçant alors une nouvelle ère. Telltale espère également utiliser cette restructuration massive pour se concentrer sur la technologie de leur jeu, dont le moteur souffre déjà d'un grave retard technique depuis longtemps. Pete Hawley a expliqué ce choix de réduire les effectifs. Donc Pete nous dit « Notre industrie a changé de façon incroyable au cours des dernières années. Les réalités de l'environnement auquel nous faisons face à l'avenir exigent que nous évoluions, réorientant notre organisation en mettant l'accent sur des jeux moins nombreux et de meilleure qualité avec une plus petite équipe. » Personnellement, je trouve ça hallucinant puisque je ne suis pas un spécialiste des jeux tels, hein, j'en avais essayé quelques-uns. Mais je n'étais pas le seul quand même. Tout le monde s'était rendu compte que c'était trop, que Telltale enchaînait ses jeux d'aventure basés sur le même moteur, basés sur le même schéma, avec une abondance, mais vraiment qui frisait la connerie intergalactique. On a l'impression que tous les mois, il y avait un nouveau jeu Telltale basé sur une licence X ou Y qui sortait, plusieurs séries qui coexistaient, n'importe quoi, à tel point qu'un nouveau jeu Telltale n'était même plus un événement. Enfin, franchement, quand ils annonçaient un nouveau jeu, même si c'était sur une licence forte, on se disait « Ah bah oui, de toute façon, voilà, tous les 15 jours, il y a un Telltale qui est annoncé. » C'est vraiment triste. Donc pour ces 25% qui vont prendre la porte, ces sorties en abondance résultent très certainement de décisions de personnes qui n'ont pas une vision, on va dire, très réaliste ni franchement qualifiée, je pense, pour jauger le marché. Donc c'est très triste. Reste à espérer que cette nouvelle orientation permettent à ceux qui restent de pouvoir bosser encore pas mal d'années et nous offrir des jeux un peu plus rafraîchissants. En tout cas, la formule initiée par Telltale qui a explosé vraiment avec Walking Dead est une très bonne formule, mais il est temps effectivement de l'étoffer, de l'améliorer, que ce soit d'un point de vue game design que d'un point de vue technique. Et voilà, bah, on espère tout le bonheur du monde pour ceux qui restent. Et c'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné la patate. N'oubliez pas que l'émission est dispo H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, PodCloud, Deezer et YouTube. Vous tapez la revue de presse JV, vous tomberez dessus direct. Vous pouvez venir discuter avec moi, me poser plein de questions et me faire des bisous virtuels si vous le désirez. J'adore les bisous. sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé, sur la page Facebook et sur mon compte Twitter perso, chez Bruno, CHZ_Bruno. N'hésitez pas à partager un max cette émission, de me mettre des étoiles sur iTunes, ça c'est super important, voilà, pour que l'émission gagne en visibilité. Vous avez aussi le blog qui centralise tous les liens, vous avez toutes les infos dessus, tout y est répertorié, c'est larevuedepressejv.wordpress.com. Et comme toujours, vous avez la possibilité de m'aider à améliorer l'émission grâce à une page Tipeee, tipeee.com/larevuedepressejv. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage pour ceux qui bossent, bon courage pour ceux qui cherchent du boulot. Je vous dis à demain, bonne journée et bye bye. Allez, salut !